Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes comme la majorité de nos contemporains qui, pour qui le premier désir est l'accession à la propriété? Bâtir une maison si possible en dur, comme celle du troisième petit cochon, vous savez, dans l'histoire des petits cochons. Et tout ça, c'est pour y installer leur famille pour longtemps, et c'est un désir légitime, c'est une bonne chose. Il est bien, je pense, d'agir ainsi pour offrir à sa famille un avenir stable, au moins sur le plan logement. Mais on pourrait poser une question à beaucoup de familles. Si les enfants auront un bel héritage fait de briques et de mortier, où est leur héritage spirituel? Qui pense vraiment à bâtir et à conserver un héritage spirituel pour ses enfants? Et dans la parole de Dieu, on voit quelqu'un qui a eu cet héritage, c'est Timothée. Timothée dont la maman et la grand-mère ont transmis un héritage, on le voit dans la deuxième lettre que lui adresse Paul. Et celui-ci l'encourage à faire fructifier cet héritage. On va lire dans cette deuxième lettre de Timothée, les 14 premiers versets de la lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de jour comme de nuit. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Sauveur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Or, cette deuxième lettre que Paul écrit à Timothée, c'est sa dernière lettre. Et elle était adressée à un camarade de travail, un ami, mais aussi son fils spirituel. Et Timothée travaillait dans l'église d'Éphèse. Au moment où il a écrit cette lettre, Paul était prisonnier à Rome. Et ce n'était pas l'assignation à domicile qu'on voit à la fin des actes, mais c'est une incarcération qui qui rend Paul lié et enchaîné, comme nous le montre le verset 16, et de cet emprisonnement-là, il ne sortira jamais. Paul était conscient que la fin pour lui approchait. Dans le chapitre 4 de cette même lettre, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quelque part, sa récompense l'attend. Pourquoi donc, à ce moment-là, il parle d'héritage ? Il parle d'héritage parce que sa principale préoccupation, même dans ces circonstances, c'est l'avenir de l'Évangile. Après sa mort, qui maintiendra l'Évangile de Jésus pour lequel il va mourir ? Qui gardera l'héritage ? Et pour Paul, la réponse, c'est Timothée. Dans cette lettre, il confie cette charge à Timothée. Il lui dit, et j'emploie des mots un peu plus d'aujourd'hui, « Timothée, quand je serai parti, c'est à toi et aux autres ensuite de garder l'Évangile de Jésus. » Et toute la lettre insiste sur ce thème, garder l'Évangile, travailler pour l'Évangile, être fidèle à l'Évangile, protéger l'Évangile, le proclamer. Alors on peut imaginer que recevoir cette lettre, ça a été un encouragement pour Timothée. Timothée qui, comme on vient de le dire, était son camarade de travail, mais Paul, c'était aussi un peu son chef, son patron. Mais en plus de ça, c'était son ami. Et puis son père dans la foi. Dans les premières lignes de cette lettre que nous avons lue, que Paul écrit à son fils dans la foi, il l'assure de ses prières, de son affection et aussi de son désir de le revoir. Bon, ce matin, on ne dira pas grand-chose sur cette amitié qui liait Paul à Timothée. On peut juste qu'il est bon d'avoir des amis chrétiens qui se préoccupent de nous, qui prient pour nous, qui nous encouragent. Et on voit que Paul, pour encourager Timothée, ne lui dit pas des banalités. Il ne lui dit pas « Timothée, je sais que tu es un type super ». Il l'encourage en soulignant la foi vivante de Timothée. Et puis il l'encourage dans le travail pour lequel il a été appelé. Et dans ces encouragements, on va voir quatre thèmes qui nous encouragent aussi et qui sont peut-être des défis pour nous. Alors Paul, premièrement, l'encourage à une foi vivante. Et puis il l'encourage aussi à la persévérance et au courage. Et après cela, il l'encourage à aimer le travail et les travailleurs pour Dieu. Et puis pour finir, il l'encourage à garder la vérité. Alors d'abord, une foi vivante. Timothée a grandi dans une famille chrétienne, une famille pieuse. Luc, dans le livre des Actes, nous dit que Timothée était un enfant d'un mariage mixte. Son père était grec, sa mère était juive. Et sa mère était croyante, et sa mère, la mère de sa mère, était croyante avant elle. Et Paul peut dire que la foi de sa mère et de sa grand-mère se retrouve maintenant en Timothée. Ce jeune homme qui a vécu et grandi dans une famille chrétienne a adopté cette foi pour lui-même. Et il arrive un moment où chaque enfant de parents chrétiens doit se décider à adopter la foi de ses parents ou à la rejeter. Et pour nous qui sommes parents, cela donne une certaine responsabilité. C'est à nous d'enseigner et de conduire nos enfants vers la foi Et ça, on peut le faire par nos paroles, mais aussi, et je pense surtout par nos actions de tous les jours. C'était la recommandation que donnait l'Éternel à toute famille juive. Et on peut lire dans le Deutéronome, au chapitre 11, à partir du verset 18. On peut le lire ici, mais on peut le lire à pas mal d'autres endroits. Voilà ce que dit l'Éternel. Mettez dans vos cœurs et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur en parlerez quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors si nous avons chacun la responsabilité d'enseigner et d'être exemplaire pour nos enfants, nous n'avons aucune garantie de résultat. Si nos enfants se détournent de la foi, on peut se sentir coupable, mais ce n'est pas forcément à cause de nous. Or, Timothée, lui, a fait la démarche de croire. Il est croyant, il a une foi vivante. Or, Paul lui dit, quelque part, c'est bien, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais maintenant, agis en fonction de cette foi. Et c'est l'encouragement à la persévérance et au courage. Au verset 6, Paul nous dit que Timothée a reçu un don de Dieu par l'imposition de ses mains. La Bible ne nous précise pas de quel don il s'agit. Mais si Paul lui a imposé des mains, c'est que quelque part Timothée était mis à part, engagé pour une tâche, une œuvre. Et on pourrait dire peut-être que cette imposition des mains, c'était, et je vais le mettre entre guillemets, son ordination. Paul ici fait certainement référence au ministère de Timothée et au don qui lui est associé. Et sans trop de risque de se tromper, on pourrait certainement penser que ce don lui était nécessaire pour s'acquitter de sa tâche à l'église d'Éphèse. La parole de Dieu est claire quand elle dit que chacun reçoit un don, au moins un don. Et donc il a un rôle à jouer. Alors si vous voulez en savoir plus, vous reprenez la deuxième lettre aux Corinthiens, dont Jean-Lionel nous a parlé ce matin, c'est au chapitre 12, vous pouvez le relire, hein, vous verrez. Alors jusqu'à maintenant, on a vu que Timothée a une foi vivante et un don. Quelque part, la situation se présente bien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Paul lui dit, c'est pour ça, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Alors, est-ce que Paul veut dire par là que la flamme est en train de s'éteindre? Pas sûr. Mais Paul encourage Timothée à ranimer cette flamme. Il aimerait que cette flamme grandisse, qu'elle se voie, qu'elle fasse beaucoup de lumière. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être simplement qu'il faut utiliser et développer les dons que Dieu nous a donnés, des dons naturels et des dons spirituels. La parole des talents que nous lisons dans Matthieu nous montre ça à l'évidence. Timothée avait la responsabilité d'utiliser et de développer ce don. Est-ce que pour nous, 20 siècles après, c'est bien différent? Pourquoi nous est-il demandé de développer et d'utiliser nos dons? Et le verset 7 nous donne peut-être une réponse. « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors on peut facilement être effrayé, timide. Il est facile de s'inquiéter jusqu'au point de ne rien faire. On peut se poser des questions. Suis-je assez bon pour ce travail? Qu'est-ce qui va se passer si je me trompe? Et puis, certainement, on va me critiquer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, si on veut travailler et développer nos dons avec nos propres forces, on a peut-être raison d'être timide. Mais Dieu nous a donné son esprit, un esprit de force, un esprit de sagesse. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance pour développer et utiliser nos dons. Cet esprit qu'il nous a donné, c'est le même que celui qu'il a donné aux apôtres à la Pentecôte. Et si on relit les actes, on voit le résultat. Soyons donc confiants quand nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Cet esprit qu'il nous a donné nous remplit d'amour. Alors qu'on puisse utiliser le don que nous avons pour la gloire de Dieu, pour servir les autres, l'égoïsme ne nous est pas permis. L'esprit nous remplit de sagesse. Employons notre don en réfléchissant un peu, pas à l'aveuglette. Nous sommes ce que nous sommes par la seule volonté et la grâce de Dieu. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'y ajouter notre travail. Quoi que ce soit que Dieu nous ait donné, il faut s'en servir, l'appliquer. Et avec un peu de discipline, collaborer avec la grâce de Dieu pour que nous puissions devenir les hommes et les femmes comme Dieu le veut. Et puis, Paul encourage à aimer le travail pour Dieu, bien sûr, et ceux qui travaillent pour Dieu. Après avoir parlé de la foi et des dons, Paul se tourne vers ce sujet-là, le travail. Le travail que fait Timothée dans son propre ministère. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul lui dit, n'aie donc point honte. Pourquoi il lui dit ça? Alors certainement parce que Timothée était tenté d'avoir honte. Certainement un peu comme nous tous, non? La honte est un sentiment commun. Et c'est facile d'y céder quand on doit parler de Jésus, de l'Évangile. Notre monde n'a pas tendance à accepter ce message-là. Il a même une certaine tendance à le désapprouver fortement et activement. Et si nous avons honte, et si j'ai honte, c'est que souvent, je veux l'approbation du monde. Je veux passer inaperçu, voire invisible. Vous avez lu le feuillet du calendrier ce matin? Il nous rappelle que l'Évangile, c'est une chose dangereuse. Témoigner de notre Seigneur, ce n'est pas forcément une occupation facile et amusante. Pour Paul, cela a induit la souffrance, comme il le décrit au verset 12. Et dans la deuxième aux Corinthiens, toujours cet épître-là, Paul nous donne plus de précisions sur certaines de ses souffrances. Dans cet épître, il parle, comme nous l'a rappelé Jean-Lionel, à ceux qui prétendaient qu'il n'était pas un bon apôtre de l'évangile de Jésus. Et il dit, c'est au chapitre 11, verset 25, « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un, trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Quel témoignage de celui de cet homme qui, malgré tout ça, est resté fidèle. N'ayons point honte de notre Seigneur et de son message. Pourquoi ne pas avoir honte? Parce que, comme Paul le dit aussi aux Romains, ce message-là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a donc pas de raison d'avoir honte. Une autre raison de honte que nous pouvons avoir, c'est nos frères et sœurs. Et là, on le voit, Paul était prisonnier. Le verset 15 dit qu'il a été abandonné par beaucoup à cause de cela. Alors, si avant, c'était un homme respectable à leurs yeux, maintenant, il est prisonnier et c'est plus le cas. Alors, comment appliquer cet ordre ou ce conseil ou cet encouragement de Paul à ne pas avoir honte? Or, premièrement, concernant l'Évangile, prenons la décision de tenir ferme en parlant avec des amis, des familles, des voisins, des collègues. Facile à dire, pas facile à faire. Mais qui donc nous a promis la facilité? Paul a souffert pour l'Évangile et c'est clair qu'il prévoyait la même chose pour Timothée. Il ne faut pas souffrir parce que nous sommes des idiots qui ne savent pas quoi dire, ni comment, ni quand le dire, mais parce que le monde est hostile à notre message. Il est hostile à ce que nous proclamons et qui nous proclamons. Mais nous devrions pouvoir dire avec Paul, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Notre regard doit se porter plus loin, plus haut que ce monde-là, et que ce qu'il pense de nous. Alors, pas honte. On a vu pas honte de l'Évangile. Pas honte de nos frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Facile à dire aussi. Pas facile à faire. Ne parlons pas négativement de nos frères ou de nos sœurs, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église. Protégeons leur réputation. Édifions-nous mutuellement. Et puis, enfin, Paul encourage Timothée à garder la vérité. Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Autrement dit, Paul dit, Timothée, n'ajoute rien, ne change rien à ce que je t'ai enseigné, ce que tu as reçu et tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que Timothée a reçu, que nous avons aussi reçu? En fait, nous avons reçu l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la promesse de la vie donnée par grâce. L'Évangile révélé par Jésus, c'est la nouvelle que la mort est vaincue. Il l'a vaincue à la croix. C'est l'Évangile de la vie et de l'espérance de la gloire. Paul nous encourage à retenir et à observer son enseignement par la foi de Jésus et par l'amour de Jésus. Et puis, nous pouvons être assurés de l'aide du Saint-Esprit pour garder la vérité, le bon dépôt. Mais pour retenir les saintes paroles, encore faut-il les connaître. Vous savez où elles sont ? Elles sont toutes dans la Bible. Alors c'est aussi un encouragement à lire, à relire et à re-relire la Bible. Écoutez chacun l'enseignement que vous recevez. Comparez cet enseignement aux Écritures. Vous savez, comme les Juifs de Béret faisaient. Paul dit aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mettez en pratique ce que la parole dit. La mettre en pratique parce que vous avez la foi en Christ, parce que vous l'aimez, et parce que l'Esprit Saint habite en vous, il vous aide. Alors je suis conscient que ces encouragements que Paul donnait à Timothée, qu'il nous donne par voie de conséquence, ne sont pas forcément une source de confort. Ils ne l'étaient certainement pas non plus pour Timothée. L'Évangile, c'est sérieux. Et nous devons le considérer sérieusement. Nous travaillons pour un héritage qui ne périra pas, jamais, même si nos héritages ici faits de moellons, de briques, de ciment sont solides, un jour ils finiront. Nous travaillons pour proclamer un message d'espoir, d'espoir pour l'avenir de quiconque croit, qu'il bâtisse une maison ou pas d'ailleurs. Ce message est plus important pour nos contemporains que l'accession à la propriété. Pour toutes les maisons, si belles soient-elles, si grandes et si confortables, prenons au sérieux cette proclamation du message. Par nos paroles, par nos actes, par notre comportement aussi. Que ce soit un fil directeur pour nous. Amen.